Bonjour à tous, nous sommes toujours à Vesoul où se tient le 24e Festival international des cinémas d'Asie. Nous sommes le jeudi 1er février, comme d'habitude, on va parler des trois sections qui nous intéressent principalement. Les films de Wang Xiaoshuai, les films de Mongolie, le regard sur le cinéma mongol, et la sélection officielle avec laquelle nous allons commencer puisque nous sortons tout juste de la projection de Bagages de Zig Dulé. Jérémy, qu'as-tu pensé de ce film? Et de quoi ça parle?
Alors, ça parle d'une, d'une folle histoire. Non, c'est une femme qui travaille à l'étranger en tant que gouvernante et qui revient chez elle en avion et qui accouche dans un avion et qui abandonne son nouveau-né dans la poubelle en mode Balek et elle revient et donc elle se fait arrêter et de ce point de vue de ce postulat là on va suivre au plus près cette femme accusée d'avoir abandonné son bébé et du cheminement de son du cheminement de la justice et son cheminement intérieur savoir un peu comment elle vit la chose et comment elle perçue la chose autour d'elle et surtout pourquoi elle a commis cet horrible acte.
Et ça t'a plu?
Bah, j'ai trouvé ça assez intéressant, parce qu'on n'est pas totalement dans le poverty porn qu'on peut voir. On n'y est pas totalement.
Parce que ça reste... Kevin dit « ouais, un peu », mais...
On n'y est pas totalement parce que, déjà, le personnage principal, c'est un personnage assez digne.
Ils sont tous dignes chez Mendoza aussi.
Hein. Non, ils sont dignes. Rosa. Non, mais Mendoza, c'est pas forcément toujours du poverty porn, Mendoza, justement.
Ouais, mais Tac Club et Marosa.
Alors, ce qu'on peut dire, non. C'est que la situation sociale.
Non, mais c'est péjoratif pour moi, poverty porn. Ah. C'est de l'exploitation.
Oui, je vois.
Voilà, l'exploitation de la misère. La
exploitation.
Te dit Philippe.
Oui, c'est ça.
Mais la situation sociale du personnage, mis à part le fait qu'elle va à l'étranger. Pour gagner de l'argent et plus qu'aux Philippines, donc c'est sa situation économique qui l'emmène donc au Moyen-Orient apparemment où elle travaille, n'est pas vraiment le sujet du film en fait. Elle est on pourrait dire qu'elle est elle pourrait être de n'importe quelle classe en fait, ça n'impacterait pas la situation
et
du
et
personnage.
En fait le sujet du film c'est comment les femmes et surtout cette femme est traitée par la justice, par le pays, par les médias.
Et les médias.
Voilà. C'est cliché, mais c'est un joli portrait de femme. Truculent portrait de femme. Non, mais c'est assez intéressant. C'est intéressant parce que ça place justement. Comme je disais tout à l'heure, ça place les femmes dans des positions. Elle c'est la victime. Mais non. Elle, oh là là.
C'est vénère.
Elle c'est la victime. Elle est placée en tant que victime, mais autour d'elle, dans les places de pouvoir, c'est que des femmes.
Bien sûr.
Il y a la policière, il y a la sénatrice,
la policière,
la sénatrice, celle qui gère le centre de femmes là, et c'est que des personnages assez importants de pouvoir qui ont une éducation et qui ont justement une bienveillance que les hommes autour n'ont pas.
Le mari
est complètement lui tout ce qu'il pense c'est le déshonneur, c'est le tu m'as trompé, etc. Et donc les hommes sont montrés soit comme ça ou soit comme des personnes qui fuient, soit qui sont des agresseurs invisibles ou soit des personnes au second plan qui sont un peu reléguées comme ça, qui servent un peu à rien. On voit l'avocat qui arrive et dit bon bah réponds aux questions, il a l'air de s'en foutre complètement.
Il y a le prêtre,
il y a le personnage de l'assistant qui se prend des torgnoles parce qu'il est en plein milieu de du centre pour femmes là, il passe avec son carton et il se prend des torgnoles.
Une scène truculente
jouissive
jubilatoire.
Et je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais c'était toi qui m'avais dit que c'était la métaphore parfaite de Twitter. où il y a un homme qui est au milieu qui se fait démonter, quoi. Hashtag MeToo.
Pas que Bobine écoute ça.
Non. Oula. Non mais après c'est voilà c'est.
On a que 10 minutes de podcast, on peut pas développer.
J'ai été par moment assez ému. Non c'est un très joli film sensible.
Voilà. Oui, une des autres qualités du film, c'est que il y a un mélange des genres qui est plutôt sympathique, même si pas toujours très subtil. Notamment la première scène commence comme un espèce de thriller horrifique parce qu'on ne sait pas où on est. C'est un plan subjectif de la femme. Donc on va apprendre plus tard qu'elle a jeté son bébé dans la poubelle des toilettes de l'avion. Mais du coup, on est vraiment dans un film d'horreur où on caméra subjective avec des petits allaitements. On ne sait pas du tout où on est. Puis on entre dans un drame plus ou moins social parce qu'on découvre son milieu. Un thriller parce qu'on ne sait pas tout à fait ce qui s'est passé pendant la première partie du film. Du coup, on va recoller les morceaux pour avoir tout le parcours du personnage. Et donc, la construction du film est assez intéressante. C'est des choses qui sont évidentes, mais qui sont données au spectateur par étapes. C'est-à-dire qu'on se pose la question de la culpabilité, des raisons de son acte une fois qu'on sait qu'elle est coupable. Donc voilà, c'est une construction en termes de d'efficacité qui est plutôt pas mal. Kefren.
Ouais, c'est bien beau d'avoir dit tout ça, mais la mise en scène est assez justement semblable au reste du cinéma philippin indépendant.
Justement, on a compris les caméras à l'épaule là.
Mais oui, justement, qui trouve une certaine facilité à utiliser la caméra à l'épaule. Peut-être pour.
C'est une question de moyen, je pense.
Oui, aussi. Peut-être par moyen, mais.
Il y a des plans de drone aussi.
Oui, il y a des plans de drone, justement, ça, c'est peut-être une question de moyen aussi, mais. Ça évite au cinéaste de repenser à des choses importantes qui sont le rapport de force à travers la composition. Et justement, dans son film qui met en scène des personnages qui représentent des institutions, etc., faire le choix de la caméra à l'épaule, même dans les petites pièces, c'est assez chiant en fait. Ça évince pas mal de questions de cinéma et il en fait une sorte de film où on suit le personnage.
Bah, c'est ce qui l'intéresse, je pense, c'est de coller au plus près de cette meuf.
Ça ressemble à un reportage télé et tout. Et ça montre. Et pour moi, justement, c'est un peu un échec de la réalisation de s'attacher comme ça à ce style, alors que justement le début du film n'est pas du tout comme ça. Et je me suis dit, pourquoi continuer à faire de la caméra à l'épaule dans ce top au lieu de faire de la
caméra à l'épaule ? Je pense qu'il y a un cahier des charges. En plus c'est un film qui est passé à Cinémalaya,
donc produit par le festival hein, d'ailleurs qui donne de l'argent,
voilà, qui subventionne
ce type de projet. Ça.
Donc je pense que c'est vraiment il y a vraiment une patte, voilà, il y a une sorte de passage obligé dans le cinéma indépendant, le cinéma indépendant
réaliste.
C'est
un peu con parce que du coup plutôt qu'être un film à part entière, pour moi ça fait un peu comme étant partie d'une masse de films sociaux mis en scène en caméra à l'épaule sans effort de composition, qu'on voit par centaines.
Bah, dans la mise en scène, oui, mais après.
Tellement à Vesoul.
Mais dans l'écriture, il y a quand même quelque chose, il y a quand même une.
Dans beaucoup de festivals.
Oui, bien sûr.
Vraiment
c'est un film de festival. Ouais.
De festival.
C'est vrai que l'écriture est.
Ouais, voilà, ça a ses qualités, mais je trouve ça vraiment rien de spécial.
Non, mais il y a une écriture plus fine que d'habitude quand même.
Ah ouais, c'est vrai. Non, l'écriture.
C'est moins balourd.
C'est pas Hermoser.
Il y a des choses qui sont dites en quelques dialogues, en quelques voilà, par exemple le personnage de la sénatrice par exemple qui vient et qui est un peu bienveillante, mais en même temps il y a quelques phrases qui montrent qu'elle est peut-être pas forcément bien intentionnée non plus, on sait pas.
Oui, il y a une ambiguïté, on ne sait pas pourquoi elle arrive. Il y a le discours officiel qui est montré après, ça a des répercussions qui sont positives mais pas forcément pour le personnage.
Et dans l'écriture, voilà, comme tu disais, il y a des choses qui ne sont pas passées par la mise en scène, mais il y a des choses qui passent justement par l'écriture, qui sont rattrapées par l'écriture. Ouais. Je pense à des séquences où on la voit quand elle arrive dans le centre et que justement, tout le monde est super bienveillant, etc. Mais dans la mise en scène, il n'y a pas grand-chose qui montre une certaine ambiguïté, mais dans l'écriture et dans la direction d'acteur, on sent qu'il y a un truc, quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas, que c'est pas forcément des gens peut-être bien intentionnés, ou on sait pas en fait, et ça nous met à la place de la victime qui sait pas trop où elle est, et c'est pour ça qu'il y a une scène plus tard où elle pète un peu un câble et qu'elle dit je vous ai confiance, etc. Tu sens qu'elle est fragile, Et la fragilité, tu la ressens dans l'écriture. Peut-être pas dans la mise en scène,
ouais, mais dans la direction de l'acteur.
Mais dans la direction de l'acteur et dans
le film montre quand même l'impuissance absolue des institutions par rapport à une telle situation, en fait. Il y a pas de. Voilà, enfin, même malgré la bonne volonté ou pas, mais souvent, enfin, on peut préjuger de la bonne volonté des personnes, les institutions elles-mêmes ne peuvent.
Et le trauma est bien écrit.
Ouais, non, mais moi je le dis, la direction d'acteur est bien et le truc, mais je ne retiendrai pas d'images. Je retiendrai des dialogues, mais pas des images.
C'est vrai.
C'est vrai.
Bon, bah, on va passer à l'hommage à Wong Xiaoshuai. Alors, vous avez vu quoi aujourd'hui?
Aujourd'hui, on a vu Frozen.
Oui.
On a vu Extinction aussi, donc autant faire une pierre deux coups et parler des deux.
Alors, on va commencer par Frozen, vu que chronologiquement, non, c'est bien avant. Vu que c'est le deuxième film.
Donc Frozen, qui n'est pas un remake chinois de La Reine des Neiges, évidemment. Ça parle d'un artiste torturé, extrêmement torturé, extrêmement bresson. Pas le cinéaste, mais sombre en verlan. Du coup, en fait, un artiste de performance qui décide, pour sa performance ultime, et sa dépression ultime aussi, de se suicider en direct devant des gens en s'immolant par la glace. Je sais pas si ça se dit, mais...
En s'immolant par la glace. What the fuck.
en se suicidant par hypothermie.
Oui, voilà.
Sous des blocs de glace. Et du coup, on voit ces derniers jours, ces derniers mois, avec ces gens autour qui sont là, vas-y, le fais pas, vas-y, fais-le, ne pense pas à ton art, pense-t'en lui qui est là, ah là là, je suis triste, je vais rester dans l'ombre parce que la lumière me fait peur, etc. Donc, pour un deuxième film, c'est donc le second film du réalisateur, donc je ne vais pas vous dire non parce que je sens que je vais l'écorcher, donc je préfère que d'autres gens le disent. J'ai trouvé ça super bien parce que c'est vraiment un portrait. Non, déjà je commence par le positif. C'est un très bon portrait de personnage malgré tout. La façon dont l'artiste est fait est un peu caricatural, mais au final, en fait, les personnages qui sont autour de lui, je trouve, rattrapent vachement le film par rapport à tout un travail sur comment les gens se font influencer par d'autres. Et comment, lorsqu'on a un artiste, on a particulièrement quelqu'un de mentalement instable, c'est assez simple de se faire manipuler par d'autres personnes, et que d'autres personnes en fait, atteignent et cherchent de toi ce qu'elles veulent, elles. Et en fait, on voit qu'en fait, autour de lui, au final, assez peu de gens sont bienveillants, et beaucoup en fait, cherchent à avoir quelque chose de lui, et son manager cherche vraiment à ce qu'il fasse l'action, qui est sa dernière action, qui va faire parler de lui, sa copine qui veut le sauver, et du coup les deux vraiment se battent entre eux,
etc. Et son coloc machin qui veut voler ses tableaux.
C'est ça, et son beau-frère qui veut voler ses tableaux et qui veut qu'il se tue, comme ça il pourra récupérer les tableaux, faire de l'argent, etc.
Je pense que c'est son galeriste, hein, le manager.
Ah oui. Et du coup, c'est voilà, par rapport à ça, je trouve le film est très bien fait. Et à part un dernier acte avec un twist un peu raté, on va pas dire que vous voulez voir sur Avistaz, sur un site comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un film super intéressant qui parle aussi beaucoup des acteurs de performance, qui est un sujet qui m'intéresse un petit peu quand même. Notamment dans le film, c'est bien mis en place et je trouve que c'est une super réussite. Et voilà. Et je parle de l'autre
Bah, je sais pas, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur
Frozen. C'est intéressant aussi pour dépeindre la jeunesse chinoise qui justement est représentée comme ça que chez Louyé avant.
C'est un film de 1997, hein, faut peut-être le préciser.
Qui était représenté que chez Louyé dans son premier film en 95, un peu de la même manière où c'était des jeunes qui faisaient du post-punk et tout. Et là, avant, la même année que le premier film de Jason Ke, je crois, qui est Artisan Pickpocket, c'est en 98 ou 97.
Pas
bon sens. Quand Non, et justement,
le
cinéaste dépeint comme ça une jeunesse chinoise qui est en plein bouleversement et qui justement montre les bouleversements de la société chinoise que montra après Wang Xiaoshuai dans le reste de sa carrière et dans By the Sickle qu'on a vu hier par exemple.
Ou une famille chinoise.
Ou une famille chinoise.
C'est pas vraiment la jeunesse pour une famille chinoise.
Hein. Justement. Puis il y a une urgence, il y a une fièvre, il y a quelque chose, il y a un truc dans la mise en scène et dans la... Dans la façon que tous les persos ils se déplacent, ils regardent, ils parlent, il y a une rage qu'on sent vraiment, on sent que ça bouillonne et que.
Et c'est drôle de comparer justement à l'autre, à la famille chinoise, parce que pour le coup, comme ça on y vient, c'est un film qui est bien postérieur, qui doit avoir peut-être 10 ans, 6 ans suivant, j'ai pas exactement la date. Si tu l'as, Victor, je veux bien la date du film.
C'est 2008.
Voilà, donc 11 ans après, et vraiment on voit un réel qui est beaucoup plus assagi, qui parle de sujets beaucoup plus sociétaux, beaucoup plus adultes aussi. En gros, ça parle d'un couple. Enfin, un couple divorcé dont la fille a atteint une leucémie et les deux sont remariés, etc. En fait, et la seule façon de sauver leur fille, c'est de faire un nouvel enfant. Enfin, pour faire un transplant, du coup, pouvoir sauver la fille. Et du coup, les deux couples divorcés vont devoir convaincre leurs deux partenaires qui puissent faire un bébé ensemble, lire ça mis en relation avec la politique de l'enfant unique en Chine qui du coup pose des problèmes par rapport à ça. Et voilà, donc c'est un film qui est beaucoup moins abrasif et beaucoup moins rentre-dedans que Frozen, mais qui a vraiment une certaine classe en mise en scène, un certain style très froid, très, très clinique, mais en même temps pas tant que ça, et qui du coup permet quand même par quelques moments d'infiltrer un peu le sensuel, le sensoriel, et même l'émotionnel, etc., de ces personnages et de leur histoire et du cheminement, et au final même d'un rapprochement entre un couple éclaté sur la maladie d'une petite fille.
Bah, c'est ce qui reste dans sa filmo finalement. Mmh. Quand on voit ses derniers films, c'est vraiment, comme tu disais, une certaine classe. Il y a vraiment un truc, c'est plus posé. Mais ça reste quand même très, très, ouais, très délicat, très sensible.
Et en plus, ça fait vraiment, comme disait Kefren, c'est vraiment, ce film-là en particulier fait vraiment très Kore-eda.
Il y a un effort de composition.
Alors, on va laisser Kefren parler.
Ouais, mais il y a un effort de composition et de direction d'acteur qui, justement, fait écho au cinéma japonais de la même époque, et notamment à Kore-eda. Et le film, et notamment des séquences en ville ou de train, la manière de positionner les acteurs, du corps dans l'espace et du traitement des gros plans aussi, rappelle vachement Kore-eda. Et en fait, il tente de donner la même douceur mélancolique à son film qu'au film de Kore-eda.
En fait, je crois qu'on peut dire que c'est le Kore-eda chinois.
Ouais, en fait, il a une sorte d'aura de Kore-eda chinois.
Il y touche sans vraiment y toucher, en fait. Par des tout petites touches, il te dit des trucs qui te touchent.
Même par la mise en scène, par exemple, il y a des jeux de miroirs dans le film qui sont vachement intéressants et qui font écho avec des rapports entre les personnages et des choses comme ça. Et c'est très intéressant. Et aussi sur la politique. Sur l'espace aussi, parce que même dans Magic Circle, il s'intéresse beaucoup à l'espace en Chine, que ce soit dans la ville ou dans la maison. Et c'est pareil, dans ce film, les espaces dans la maison parlent beaucoup plus des rapports entre les personnages que même les dialogues entre eux.
Après, je trouve que contrairement à chez Kore-eda, ça je parle en général, je parle pas que pour film chinois, je parle aussi pour Frozen et Magic Bicycle. Je trouve vraiment sur elle un petit problème que justement on n'a pas Kore-eda, c'est que ces personnages sont vraiment très stéréotypés. Et souvent, en fait, sont vraiment réunis, non pas stéréotypés, mais vraiment réunis en une seule idée, c'est-à-dire que. Je trouve que c'est vraiment une idée que j'ai eue en voyant les trois films, c'est qu'au final, les trois, parfois dans certains passages, sont trop sombres, par exemple dans Frozen.
Archétypo, tu veux dire.
Quoi ?
Archétypo,
voilà, plutôt. Trop quelque chose, soit trop des pauvres gens à qui il arrive que du mal, soit trop des enfoirés, soit trop. Et vraiment, du coup, un côté parfois un peu trop rentre-dedans, un peu trop bourrin par rapport à juste au personnage qui me déplaît un peu, mais n'empêche que c'est une super découverte pour moi, parce que j'ai vu aucun des films du Réal. Donc merci beaucoup à l'équipe du FICA. D'avoir mis en place cette rétrospective.
Alors on va passer à notre la troisième section qui nous intéresse cette année. Alors il y en a d'autres qui du coup sont aussi intéressantes, mais dont on reparlera le bilan du festival, mais qu'on couvre un peu moins parce qu'il y a notamment Paroles de femmes qui sont des films qu'on connaît déjà pour la plupart, mais qui ont un beau succès vu que la plupart sont complets, donc c'est bien, c'est plutôt des bons films, sauf The Lady.
Et Nos.
Mais... j'ai pas vu Nos, mais j'ai subi The Lady, donc c'est film, et les autres sont quand même très très bien. Et donc on va passer au regard sur le cinéma de Mongolie. On a vu aujourd'hui un film de 1991, donc qui était La Corde, le premier film de Ouranchimeg Namzal. Jérémy, on l'a vu ensemble.
Oui.
C'est quoi deux mots, on va juste dire un mot sur le.
Non, c'est le quotidien film. D'un enfant, d'un enfant livré à lui-même. C'est à Oulan-Bator, je crois, il me semble. Mais, voilà, il est livré à lui-même entre la délinquance, il cambriole des maisons en escaladant en descendant en rappel avec une corde le long des HLM et il rentre dans la maison pour les mafieux.
Impressionnant.
Ouais, les séquences sont assez folles. Et voilà, on va suivre son destin à ce pauvre garçon avec son petit chapeau et son impère là, il est tout mignon. C'est marrant parce que quand on en parlait, c'est un film de 91 et c'est filmé comme un film de 1960, on dirait.
Avant la nouvelle vague, c'est Miskin. Vrai qu'on parlait hier.
Non, mais pas Miskin, c'est il y a
néo-réalisme.
Il y a un néo-réaliste de Vittorio De Sica pour Beijing Bay, c'est voilà. Mais c'est vrai qu'on retrouve cet esprit du néo-réalisme italien, mais c'est en noir et blanc. Je crois que c'est en 1.33, mais je suis en 4 tiers, sûr. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de la naissance de la modernité
oui, c'est ça.
Dans le cinéma, mais 1991, donc ça crée une... Et puis la société était pas, enfin, aussi subissait des bouleversements politiques à l'époque. Donc du coup, c'est assez bizarre de voir ça, le rapport entre une modernité qui se crée et un truc très passéiste dans le rapport aux images que présente le film. Mais c'est pas inintéressant. Du coup.
Non, c'est pas inintéressant. Après, c'est pas... C'est une histoire qu'on a déjà vue plusieurs fois. Ce que ça raconte, ça dit pas de... Ouais, ça enfonce un peu des portes ouvertes. Mais c'est vrai que ça reste intéressant historiquement déjà, et puis voir l'évolution l'évolution d'un cinéma, comment la réalisatrice, c'est une réalisatrice, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Comment la réalisatrice se débrouille avec les moyens du bord. Et à noter que le chef-op est le héros du documentaire qu'on a...
Passion
qu'on a vu hier. C'était Monsieur Pinder. Comment il s'appelait?
Pinder
quelque chose.
Pinder.
Gigi, voilà. Pinder Gigi. Voilà.
Ouais.
Et du coup, c'est un bon boulot parce qu'il y a, malgré la surexposition, mais je pense qu'il est dû au moyen du technique et puis la pellicule qui a pris cher aussi, je pense. Il y a un travail sur les ombres. La photo est intéressante aussi. Voilà, c'est très bien. Voilà.
Oui, ça a l'air plutôt mieux que le film qui monte dans l'Occasion.
Voilà, Trafic d'humain.
Trafic d'humain,
ça a l'air hardcore. Ouais.
Donc, séance demain à 18h et 20h. Rendez-vous demain, Space Cowboys.
Ouais.